Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous reprenons ensemble la suite de ce récit de Henri Calais, Les Grandes Largeurs. Au cours d'une de mes excursions, j'ai été abordé par trois jeunes filles qui m'ont demandé de leur indiquer le chemin du Vésinet. Je leur ai répondu que c'est très distant des Ternes. Mais elles tenaient absolument à pousser jusque-là. Elles avaient toutes trois un même air un peu entêté. « On veut aller au cirque !» m'a dit l'une d'elles. Moi aussi, je serais allé jusqu'au Vésinet à leur âge, pour assister à un spectacle de cirque. J'ai tâché de leur fournir un itinéraire, mais je ne pense pas qu'elles aient jamais pu atteindre le Vésinet ce jour-là. Il se trouve que je connais le Vésinet. J'y suis allé il y a quelques semaines en quête d'un logement. C'est une localité où je m'installerais volontiers si les banlieues, quelles qu'elles fussent, ne m'inspiraient pas de la topophobie. L'appartement n'était pas libre. Nous y avons été reçus par une grande jeune femme blonde et volubile qui fumait des cigarettes, lascivement étendue sur un divan et vêtue d'un peignoir d'un fort beau rouge. Je m'y suis souvent rendu aussi, étant jeune, plus jeune que les trois jeunes filles, mais non point pour voir des clowns et des chevaux dressés et des écuyères, ni pour chercher une habitation, non. On m'y a mené auprès de ma mère, qui était dans une maison de convalescence de l'État, peu après sa typhoïde. J'ai tellement entendu parler de cette typhoïde qu'elle a pris peu à peu une place capitale dans mon existence. Ma mère avait l'habitude de dire « c'était avant ou après ma typhoïde ». Ce que c'était vraiment que la typhoïde, je l'ignorais. Mais le mot me paraissait neuf, un peu baroque. Entre nous deux, il a servi de point de repère, de date historique. Nos vies étaient comme balisées par la typhoïde de ma mère. Ainsi, moi, j'ai été envoyé à Berck après sa typhoïde. En revanche, j'ai été opéré avant. Mais est-ce bien certain? Pour ma mère, la ligne de partage est plus nette. Elle se remémore avec mélancolie tout ce qui s'est produit avant, alors que tout ce qui a eu lieu après est mauvais. Il y a eu une variante. Elle disait parfois elliptiquement, c'était après ou avant Beaujon, car c'est à l'hôpital Beaujon qu'elle a été soignée. Pour moi, c'était tout autant mystérieux, Beaujon. D'ailleurs, c'est durant son séjour à Beaujon que mon père l'a quitté, après avoir vendu ses bottines et son corsage à un chiffonnier. Il a gardé cette manie de se défaire périodiquement des vêtements usagés. Je me souviens également que ma mère a perdu ses beaux cheveux à Beaujon. Il lui arrive souvent de reparler de ses paires de bottines presque neuves. En résumé, nos malheurs familiaux partent de là, de Beaujon. Aujourd'hui, qu'ils sont à peu près oubliés par nous tous, je puis avancer que c'est tout de même bien commode d'avoir eu une bonne maladie. On s'oriente mieux que d'autres parmi son fouillis personnel. Mieux que ceux qui n'ont que les guerres mondiales ou les expositions universelles à leur disposition. Nous en avons subi plusieurs, tandis qu'on n'a jamais plus d'une typhoïde. Pour ma part, je me suis vainement efforcé plus tard de retenir l'attention de mes interlocuteurs sur mon opération. Mais je n'y mettais peut-être pas assez de conviction ni d'insistance. J'ai sous les yeux une ancienne gravure qui représente le jardin Beaujon. On y voit des messieurs et des dames, des enfants et des militaires dans un petit chemin de fer roulant à travers un paysage accidenté en carton. Il s'agit des montagnes françaises qui sont, peu s'en faut, l'équivalent de nos montagnes russes. C'était bien antérieur aux emprunts successifs, aux rouleaux compresseurs, à l'entente cordiale et à notre éphémère russophilie. Ainsi, avant d'avoir été un hôpital, ce bâtiment sombre était un centre de divertissement, de Luna Park ou de Magic City pour les Parisiens d'il y a 100 ans. Finalement, une école pratique de gardien de la paix s'y est ouverte. Qu'est-ce que l'on enseigne là-dedans ? Le passage à tabac ? Du village d'Éterne, il subsiste encore les 2 ou 3 vieilles fermes de la rue Bayen, quelques arbres et une partie du château d'Éterne, dans lequel une ouverture formant arcade a été percée pour la circulation. J'avais grande joie à y passer. Le disque n'a pas été enlevé. Marcher au pas, allure très modérée. Les fiacres s'y engageaient un par un et au pas. Le cheval vous frôlait. Ma mère me tirait tout contre elle. Lorsqu'il avait plu, les roues faisaient des éclaboussures aux mollets. J'ai dans l'esprit, mais ce doit être faux, que j'ai eu froid aux mollets et aux genoux pendant toute ma petite enfance. Il me monte aux narines une odeur piquante de pelage en sueur. J'ai une mémoire olfactive. La cadence des fers sur le pavé se répercutait sous la voûte. On ne rencontre plus par là de fiacres allant au pas ou au trot. Un de ces dimanches que je déambulais dans la rue des Acacias, j'ai reconnu devant le numéro 30, où nous avions habité, un saltimbanque que j'avais déjà vu ailleurs. Il n'est pas surprenant que nous nous croisions parfois, nous parcourons l'un et l'autre Paris. Moi par désœuvrement, lui pour gagner sa vie. Je suis toujours bien aise de le revoir, lui et sa famille, et sa chèvre savante, et son cheval languide. Il a un fouet à la main et il est coiffé du chapeau de cow-boy que j'ai désiré durant tant d'années. C'est ainsi que je me représentait Texas Jack ou Jim Canna, le roi des batteurs d'estrade. J'étais conquis par cette expression que je ne connaissais pas. C'était un jour d'été. Les Parisiens étaient allés soit aux courses, soit au Père-Lachaise, au Prix de Diane ou au Mur des Fédérés, suivant leur inclination. Il n'y avait pas de spectateurs autour du dresseur, ce qui fait qu'il a écourté son numéro. Il s'est contenté de forcer sa chèvre à grimper sur l'escabeau, tandis que sa fille fumait une cigarette pour tâcher de combattre son ennui. Elle me fascine, cette Esmeralda malpropre, méprisante, à la figure barbare, peinte au minium, décorée d'accroche-cœurs noirs. Elle ne se donnait même pas la peine d'agiter son tambourin. Le fils grattait rêveusement l'encolure du cheval jaunâtre qui n'avait rien à faire. Puis ils se sont éloignés. Le vieux gitan avait replié l'escabeau qu'il portait sur son dos. Mauvaise journée, piètre recette. Dommage que les 3 demoiselles qui aimaient le cirque ne fussent pas passées par là ce dimanche. C'est en face du numéro 30 que Brutus, notre chien, s'est fait écrabouiller par le fiacre qui allait remiser de mon ami Franck de l'Urbaine. J'avais de la considération pour Franck quand il avait son ample carrique beige, son chapeau de forme blanc et rigide. Il travaillait à Paris pendant l'hiver seulement. Au printemps, il retournait dans son Auvergne natale. mais c'est plutôt par les pieds qu'il est resté dans ma mémoire. Il gardait tout l'hiver une même paire de chaussettes qu'il n'enlevait qu'une fois rentré dans son village. La mort de Brutus m'avait affligé. Mes parents m'ont offert un autre bâtard, Marquis, qui était moins affectueux de Brutus et plus turbulent. Il mordillait sans cesse les habits, les chaussures, les bibelots. Les quelques photographies de famille que j'ai encore en ma possession sont griffées par lui ou portent la trace de ses dents. Mes parents sont défigurés. D'ailleurs, le pauvre petit Marquis a été écrasé à son tour par un taxi auto, un des premiers taxis Renault. Les chiens ni les gens n'avaient pas encore appris à se méfier des automobiles. Il n'y avait pas de passage clouté ni de signalisation d'aucune sorte. On marchait au pas. Après cela, j'ai reporté ma sentimentalité sur les tortues et sur des souris blanches bien aimables, mais dont j'ai dû me séparer à la suite de protestations de la concierge, qui a fait l'état de certaines rumeurs selon lesquelles il y aurait eu une épidémie de choléra dans la rue d'Armaillé, c'est-à-dire tout près de chez nous. Je portais malheur aux animaux. La rue des Acacias s'est transformée. Les hôtels, les bars, les dancings ont, à l'heure qu'il est, des appellations étrangères. Miami, Floride, Pennsylvania, Broadway, Captain, Honolulu. Elle a beaucoup rajeuni. Elle s'est américanisée. On y boit, on y danse, on y festine. Il est vrai que moi aussi, je m'y suis bien diverti jadis à ma manière. Par exemple, au jeu de quilles qui était derrière la boutique de l'Italien dans la cour, à peu près où se trouve Honolulu aujourd'hui. J'ai suivi des parties mouvementées. Quel fracas faisait la grosse boule de bois en renversant les quilles. J'avais pour mon compte un jeu de quilles, mais tout petit. Oh, comme c'était captivant! Et par-dessus tout, lorsque c'était mon père qui réussissait un beau lancer. Mais mon père jouait généralement sans ardeur. Je le suspecte de n'être venu là que pour lorgner de près la fille de l'Italien qui était, me paraît-il à distance, bien belle et plantureuse dans sa blouse immaculée. Elle dégageait un arôme de fruits secs et de viande fumée que je n'ai plus jamais retrouvé chez une autre femme.
Paris en crêpe de Chine, comme un chagrin d'asphalte, et tes trottoirs vaincus par la téléfaction. La foule qui va boire à la prochaine halte, je m'arrête toujours pour voir passer les cons. Paris, je ne t'aime plus, je ne t'aime plus, je ne t'aime plus. Les guitares à Paris ne sont plus espagnoles, elles jouent le flamenco jerk branché sur le secteur. Comment veux-tu, petit, danser la carmagnole si t'as rien dans les mains, si t'as rien dans le cœur? À Paris, je ne t'aime plus, je ne t'aime plus, je ne t'aime plus. Les Français à genoux, disant qu'ils sont pliés, disant de servitude. Et quand on vit par terre, on prend des habitudes. Quand ils se lèveront, nous resterons chez nous. jour à Paris. Je ne t'aime plus, je ne t'aime plus, je ne t'aime plus. Paris du 1er mai, avec ses pèlerines et le beau syndicat qui reste à la maison, ce sont les Marx Brothers, oubliés par Lénine en 1917, place de la Nation à Paris. Je ne t'aime plus, je ne t'aime plus, je ne t'aime plus. Paris en manteau noir, habillé par Descartes, à perdre son latin, on met tout un quartier. Paris de la Sorbonne, ils ont pris pour un claque un étudiant en carte. Ça doit se visiter à Paris. Je ne t'aime plus, je ne t'aime plus, je ne t'aime plus. Paris des beaux enfants, en aller dans la nuit. Paris du 22 mars et de la délivrance. Oh, Paris de Nanterre, Paris de Cohn-Bendit, Paris qui s'est levé avec l'intelligence. Paris, moi je t'aime encore.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Henri Calais, Les grandes largeurs. En regard de Prodway, le petit débit de bois, vin et charbon est toujours ouvert. La devanture a été repeinte, mais l'encadrement de bûches est le même qu'avant. Le patron est bien jeune. Ce n'est pas lui qui m'a versé un verre de vulnéraire ou d'arquebuse après ma chute sur la tête dans la fosse du garage. En 1910, il n'y avait qu'un seul garage dans la rue des Acacias, celui de mon père. On répétait autour et au-dessus de moi « Son père travaille au garage ». Et je me rappelle que je tirais quelques glorioles de le savoir en contact avec toutes ces merveilles. Il me plaisait de l'entendre utiliser dans la conversation des mots nouveaux et étranges, tels que « magnéto »,« dynamo »,« chambre à air ». Cela m'impressionnait autant, sinon davantage, que « typhoïde ». Les fonctions de mon père étaient subalternes. Il faisait les cuivres. C'est en voulant serrer la main de Constant, le mécanicien, que j'ai fait la culbute. C'était aussi avant Beaujon. Je la connais, cette rue, par cœur. Je veux dire qu'elle passe par mon cœur. C'est en y traînaillant que j'ai commencé à épeler les signes de l'alphabet par mes propres moyens, en déchiffrant les noms des commerçants écrits en lettres d'émail blanc sur les vitrines et surtout les titres des journaux pendus devant la porte de Madame Pubertin la Mercière, une amie de ma mère. Ça a été un grand événement familial quand mes parents se sont aperçus que je faisais la différence entre le matin et le journal que je leur apportais tous les jours. Ils en ont conclu un peu hâtivement que je savais lire. J'avais 5 ans. Il paraît plus plausible que j'étais par degrés arrivé à distinguer les majuscules gothiques et contournées du matin des caractères plus simples du journal. Mon père était fidèle au journal, surtout à cause de la page littéraire du dimanche et des chroniques d'Octave Mirbeau et d'Alphonse Allais, dont il me parle encore assez souvent. De son côté, ma mère aimait bien à lire les nouvelles de Charles-Henri Hirsch. Il y a eu aussi dans je ne sais lequel des deux quotidiens un roman feuilleton qui a marqué mon père, le Nyctalope. De cela également, il lui plaît de reparler, et le parallèle qu'il fait avec les romans feuilletons actuels n'est pas à leur avantage. Les Nyctalopes sont des êtres surnaturels qui ne voient que la nuit. Ils ont une longue queue et ils avancent par bonds sur une seule patte. Peut-être se reposent-ils par instant sur leur queue. Ils ont un œil au milieu du front. Sur ce dernier point, mon père montre de l'hésitation. Il se demande s'ils n'ont pas un deuxième œil sur le derrière de la tête. Quand ma mère n'avait pas le temps de faire la cuisine, elle m'envoyait chercher un demi-litre de bouillon de bœuf chez le boucher. Elle me remettait 6 sous qu'elle enveloppait dans un bout de papier par prudence. Je me servais d'une boîte à lait que je m'amusais à balancer. Mais une fois pleine, je devais prendre garde à ne pas renverser le contenu, sur quoi il ne tardait pas à se former une mince pellicule de graisse figée qu'il était tentant de crever du doigt. Pour les jours de disette, nous avions en réserve un pot de libique. Avec une cuillerée de ce produit nouveau, on obtenait sans mal un excellent consommé. C'est pour son fumet que j'adorais le libique. Ça sentait le sang. En trouve-t-on encore chez les épiciers ? Nous avions un régime alimentaire progressiste, hygiénique, très étudié. En cette matière, nous suivions la mode, ce qui nous amenait à consommer quantité de choses dont nous ne comprenions pas le nom. Le Quaker Oat. Sur la boîte, un monsieur bedonnant nous tirait son tricorne. Il n'y a pas bien longtemps que, dans une sorte d'illumination, il m'est apparu que ce devait être un Quaker. « Ah, what ?» s'écriait souvent mon père avec un geste insouciant de la main. On n'utilise plus cette expression dont le sens et l'origine m'échappent. Lui-même a renoncé à s'en servir. D'autres fois, j'allais acheter à la boucherie chevaline 1/4 ou 100 grammes de viande hachée. Nous avions toujours été hippophages dans la famille. Cet appétit pour le cheval cru était partagé par beaucoup de Français. Notre médecin, le docteur Cassandre, nous l'avait ordonné à titre fortifiant. Mon père avait pour règle de gober un œuf chaque matin au réveil. L'opération requérait un certain tour de main. Il crevait la coquille à la base et au sommet à l'aide d'une épingle qu'il a toujours au revers de son veston. Ce qui est curieux, c'est que le jaune passe en entier par un de ces petits trous. Je n'ai jamais su gober les œufs. Tout en faisant mes commissions, je récitais à l'infini les commandes dont j'étais chargé. Avant que je ne sorte, ma mère me disait « N'oublie rien !» À partir du palier, j'en faisais une manière de chansonnette. Mais dans le magasin, tout commençait à se confondre. Les sujets de distraction ne manquaient pas, que ce fût la banderole de drap rouge de la teinturerie. Cela ne se fait plus. Que je saisissais au passage ou la boule dorée du coiffeur d'où pendait une queue de cheval semblable à celle de la garde républicaine. Il venait par la porte des bouffées embaumées de trèfle incarnat. Trèfle incarnat, qu'est-ce que c'était ? Et air dresseur, qu'est-ce que ça voulait dire ? L'anglomanie était déjà en germe dans la rue des Acacias. mes parents avaient des goûts changeants et des curiosités. Un jour, ils voulaient du pain polka, le lendemain, du pain bouleau. Cela ne simplifiait pas ma tâche. Je ne leur ai pas entièrement pardonné de m'avoir mis quelquefois dans des positions fort délicates, ainsi dans cette affaire de jetons. Un jour, après déjeuner, qu'ils ont été pris d'une envie de café chaud, ils m'ont envoyé avec mon petit pot au bureau de tabac de l'avenue Carnot. Mais au lieu d'argent, ils m'ont donné des jetons d'appareils à sous que mon père avait trouvés dans ses poches. Le cafetier n'en a pas voulu, et je suis revenu avec mon petit pot vide. Je devais être très mortifié de son refus. Si je ne m'étais pas retenu, ai-je déclaré, je leur aurais lâché mon gaz. Je n'étais plus tout à fait le garçonnet apathique d'avant. Il faudra que je revienne sur ces jetons à consommer. La rue des Acacias débouche dans l'avenue des Ternes. Tartine flamande à la pâtisserie bruxelloise, petit cadoret à la pâtisserie bretonne, jouets à l'économie ménagère, le restaurant Chartier où, sur le menu affiché dehors, les plats recommandés étaient écrits d'une encre violâtre et, semblait-il, d'une main tremblante. C'est dans cette rue que je me suis épris de l'automobile. Je l'ai connue là, toute petite, quand elle faisait ses premiers pas dans les années 6, 7, 8. Elle avait déjà ce parfum de pétrole, d'huile et de caoutchouc. C'est ainsi que, grandissant ensemble, nous voyons tous les jours, j'en suis devenu amoureux. J'ai encore la tête emplie de tous les noms qu'elle a successivement portés. Clément, Georges Richard Brasier, Mendelssohn, Darac, Motobloc, Léon Bollet, Girardot Vogt, Pipe, Turcaméry, Grégoire, La Licorne, De Dion Bouton, Desmarais Morane, Charon, Morse, Luc Cour. Et je me souviens aussi des pneus Continental, Souplefort et Le Gaulois. Au fait, d'une maison voisine, on avait érigé une statue en zinc de Vercingétorix, ou du moins ce guerrier moustachu qui lui ressemblait fort. Elle me paraissait immense, j'en avais très peur. C'est là que se trouvaient les bureaux des pneumatiques Le Gaulois. Le désir d'en avoir une, de la manier, de la diriger, était en moi. Et dès que ma situation sociale s'étant soit peu affermie, je me suis mise à y réfléchir. Il m'en fallait une, comme d'autres voudraient une femme. À tout hasard, j'ai passé les épreuves du permis de conduire. C'est peu de temps après qu'il m'est tombé sous les yeux une annonce de journal. On y voyait la reproduction d'une torpedo, sous quoi il était écrit « Elle est à vous, vente à crédit, le roi de l'occasion ». Avais-je oublié les tracas et les vexations sans nombre que nous avaient valu à ma mère et à moi les tractations commerciales à tempérament et singulièrement les frayeurs que nous occasionnaient une fois par semaine les abonneurs du bon génie. Je me suis rendu sans tarder à l'adresse indiquée dans une petite rue à Montmartre où j'ai été reçu affablement par un monsieur en blouse blanche. Était-ce le roi de l'occasion en personne ? Je ne l'ai jamais su. Choisissez, m'a-t-il dit. Ça n'a pas été long. J'ai reconnu au centre du hall, sur un socle, en pleine lumière, la torpedo, plus belle qu'en photo, repeinte à neuf, dans un gris Trianon. Elle était superbe. Ah ! On peut dire que vous avez du flair, vous ! S'est exclamé le roi ou son second. Elle vient d'être entièrement révisée, les pistons ont été réalisés, c'est une affaire exceptionnelle. Eh oui, j'avais du flair. J'ai toujours eu du flair. Et puis, j'étais heureux d'entendre de nouveau des néologismes techniques qui rappelaient ceux qu'employait mon père. Avec un mot savant, on fait de moi ce que l'on veut. Voilà, nous avons terminé pour ce soir. la lecture de ce récit de Henri Callel, Les grandes largeurs, que nous retrouverons et terminerons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.